VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel Plus avec Léon Morin-Gibourg, mais tout d'abord, le journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. La conférence de presse du président élu, qui était très attendue, a eu lieu tout à l'heure à New York. Donald Trump s'est exprimé sur son programme économique, sur ses relations avec la Russie et sur bien d'autres sujets. Pour en parler, nous retrouvons Nicolas Pineau.
Eh bien, Donald Trump est apparu très offensif sur le dossier russe et notamment le piratage informatique opéré par Moscou contre le Parti démocrate, le milliardaire américain qui reconnaît aujourd'hui l'implication de la Russie, ce qu'il a longtemps nié.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by...
Voilà, concernant le piratage, je pense que c'était la Russie, mais je pense qu'on a aussi été piraté par d'autres personnes. Donald Trump est revenu sur un précédent piratage de la Chine, par exemple. Sur sa prochaine relation avec la Russie, Donald Trump a assuré qu'il allait être ferme, mais qu'il s'entendait bien avec le président russe et que ce serait un atout pour les États-Unis et non un obstacle.
If Putin likes Donald Trump...
Si Poutine apprécie Trump, je ne pense pas que ce soit un obstacle, mais un atout. La Russie peut nous aider à battre le groupe État islamique. Donald Trump a assuré que la Russie allait beaucoup plus respecter Washington avec Trump à sa tête. Le président américain élu a également réitéré sa position. Il va construire un mur à la frontière avec le Mexique et, selon lui, Mexico paiera sous forme de taxes, par exemple.
Et sur le plan économique, Nicolas ?
Alors, il a réaffirmé qu'il souhaitait remplacer l'Obamacare, la loi symbole du président Obama sur l'assurance maladie. Il a notamment cité les polices d'assurance dont les prix ont fortement augmenté dans certains États. Comme lors de sa campagne électorale, Donald Trump a également affirmé qu'il serait, je cite, « le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé ». J'ai été assez actif sur le plan économique pour le pays. Beaucoup de constructeurs automobiles vont construire sur notre territoire. Une grande annonce va être faite dans les prochaines semaines pour le Midwest. Vous avez vu hier Fiat et Chrysler. Alors, on parle également des entreprises américaines qui, si elles délocalisent, elles devront payer une lourde taxe frontalière selon le président élu américain.
Et sur les conflits d'intérêts, tous les conflits d'intérêts dont on l'accuse ?
Eh bien, Donald Trump a affirmé ce mercredi avoir cédé le contrôle de la Trump Organization, hein, toutes ses entreprises, à ses deux fils, Eric et Donald Jr. pour la durée de son mandat, en promettant que cela permettrait d'éviter les conflits d'intérêts avec sa fonction présidentielle.
My two sons, who are right here, Don and Eric.
Mes deux fils ici présents, dont Eric et Don, vont diriger les sociétés. Ils les dirigeront de façon très professionnelle. Ils ne m'en parleront pas. Sa fille, Ivanka, a-t-il précisé, coupera aussi ses liens avec l'empire économique Trump en se concentrant sur son installation à Washington. À noter qu'il a salué la presse, il a dénoncé les faux reportages parus ces dernières heures à son encontre, mais a quand même réussi à avoir un échange verbal avec un journaliste de CNN.
Nicolas Pineau au micro de Gabi Dorsil et d'Anastasie Toudiech. Afrique maintenant, en Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement ivoirien plus restreint formé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est composé de 28 membres. La plupart des grands ministères restent inchangés, mais plusieurs poids lourds quittent l'équipe gouvernementale. Tatiana Mousso.
Le président ivoirien a signé un décret portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly, 57 ans, en qualité de premier ministre, chef du gouvernement, selon un communiqué de la présidence. Selon les textes, M. Coulibaly doit proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. La nomination de M. Coulibaly survient après celle de son prédécesseur, Daniel Kablan Duncan, au poste de vice-président. Le poste de vice-président a été créé par la toute nouvelle constitution adoptée récemment par référendum. M. Duncan devient ainsi le deuxième personnage de l'État à l'image des institutions américaines. La veille de sa nomination, Guillaume Soro a été reconduit au perchoir de l'Assemblée nationale.
Merci Eddy Sango. Nous passons à la crise en Libye. Le président gambien sortant Yahya Jammeh a dénoncé des ingérences étrangères sans précédent dans son pays et a appelé à un règlement pacifique du contentieux électoral qu'il a avec l'opposition. C'était lors d'une déclaration télévisée dans la nuit de mardi à mercredi. Monsieur Jammeh s'est exprimé de la sorte quelques heures après l'annonce par la Cour suprême gambienne qu'elle ne pouvait pas statuer avant plusieurs mois sur ses recours contestant sa défaite aux récentes présidentielles. La plus haute instance judiciaire gambienne a prôné une solution négociée avec le président élu Adama Barrow dans l'intervalle. La décision de la Cour intervient avant la venue d'une mission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à Banjul, pour essayer de convaincre Yahya Jammeh de céder le pouvoir à l'expiration de son mandat le 19 janvier. Une visite initialement prévue mercredi, mais reportée à vendredi à la demande de M. Jammeh, selon la présidence du Nigeria. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Jeffrey Onyema, a assuré hier qu'un transfert pacifique du pouvoir est préférable, mais qu'un recours à la force n'est pas exclu. La veille de l'an, Yahya Jammeh avait exclu toute négociation avec la CEDEAO, l'accusant de partialité. Le 20 décembre, il avait affirmé qu'il ne céderait pas le pouvoir tant que la Cour suprême n'aura pas statué sur son recours. La Haute Cour a répondu hier qu'elle ne pourra pas statuer. Plusieurs juges manquent à l'appel depuis plus d'un an et demi. Le magistrat nigérian Emmanuel Fangbenle, président de la Cour suprême, a dit qu'il faudra plusieurs mois pour les remplacer. D'ailleurs, l'audience qui était prévue hier a été renvoyée au 16 janvier pour permettre de trouver une solution pacifique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En RDC, 26 personnes ont été tuées depuis le début de l'année dans des affrontements entre les forces de sécurité et les partisans de Kamuina Nsapu, un chef traditionnel dans la province du Kasaï central. 5 civils, 9 éléments des forces de l'ordre et 12 miliciens ont perdu la vie, selon un communiqué du gouverneur de la province, Alex Kandé. Le gouverneur Kandé accuse le mouvement de Kamuina Nsapu de s'être transformé en guérilla meurtrière qui enrôle de force des mineurs, utilise des enfants et des femmes comme boucliers humains, intercepte des trains et détruit des édifices publics. Médecin âgé d'une trentaine d'années, le chef traditionnel Kamuina Nsapu a été tué dans une opération de police le 12 août 2016. Il avait lancé des appels à l'insurrection et à la libération du Congo dans un enregistrement audio qui circule toujours sur les réseaux sociaux. RCA maintenant, Amnesty International, dans un nouveau rapport publié aujourd'hui, met en cause les auteurs présumés de crimes de guerre, notamment des meurtres et des viols pendant le conflit en Centrafrique, qui sont toujours en liberté. Le rapport souligne qu'il est urgent de reconstruire le système judiciaire de la RCA et de rendre la Cour pénale spéciale opérationnelle dans les plus brefs délais. Au micro de Félix Yepassi Zembrou, la réaction du président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bindoumi.
Les gens qui ont été à l'origine de graves violations des droits de l'homme, eux et leurs hommes en République centrafricaine sont en liberté. Ils circulent même librement entre les États d'Afrique centrale et voyagent même allègrement dans les États où les Nations Unies sont pourtant représentées en République centrafricaine. La vérité, c'est que ces criminels connus agissent et opèrent en présence de forces internationales accréditées en République centrafricaine. Donc c'est un véritable problème. Tout le monde sait qu'en République centrafricaine de 2012, à ce jour, beaucoup de crimes et de guerres et de crimes, même contre l'humanité, sont commis en République centrafricaine, mais que là où la communauté internationale est lourdement représentée, les criminels de guerre se promènent librement. Et l'ironie du sort, c'est que la République centrafricaine, son armée est sous embargo. Elle n'est pas autorisée à mener des actions de nature à capturer ces criminels et à les traduire en justice. Donc voilà la situation dans laquelle nous trouvons et je pense que c'est légitime que Amnesty International l'ait souligné dans son rapport.
Oui, par ailleurs, monsieur le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, la Cour pénale spéciale mise en place par les autorités de la transition de l'époque tarde à être opérationnelle. Est-ce qu'il y a-t-il des raisons particulières à cela?
Apparemment, il n'y a pas de raison particulière parce que c'est depuis le 1er juin 2015 que la loi a été votée par le Conseil national de transition et promulguée par le chef d'État de la transition. Et aujourd'hui, plus d'un an et demi après la promulgation de cette loi, la Cour pénale spéciale traîne à voir le jour. Au départ, il y avait la recherche de financement. Et puis maintenant, on est arrivé pratiquement à l'appel des candidatures. Et à la date d'aujourd'hui, on continue toujours à ne pas savoir quel nombre de personnes vont composer cette juridiction, qui sont déjà désignées, quel nombre de personnes viennent de la communauté internationale, etc. Et ça, c'est un véritable problème aussi.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.